podcast sur radioj.fr. Shabbat shalom.
Shabbat shalom à tous.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar.
Fin de ce grand journal, merci de l'avoir suivi. Merci à Benjamin et Ethan à la réalisation. À suivre, un nouveau journal présenté par Ethanik Belaïch, suivi de l'émission de Cyril Seracouel. Vous pouvez retrouver cette émission à partir de 18h sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le grand journal. Le grand journal. Steve Nadjar.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Passé de 1 minute, merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Tout de suite, un nouveau journal. Un journal présenté par Ethanik Belaïch. Bonjour Ethanik.
Bonjour Steve, bonjour à tous. Au 222e jour de guerre en Israël sur le front nord, le Hezbollah a lancé une soixantaine de missiles contre la région de Meron et de Bir Anit ce matin. Des roquettes lancées contre des positions militaires israéliennes en réponse à l'élimination par Tzahal d'un haut commandant du groupe terroriste dans la nuit, Hossein Ibrahim Meshi, chargé de superviser les attaques contre Israël depuis le sud du Liban. Il a été éliminé dans une frappe aérienne contre le véhicule dans lequel il circulait dans la ville de Tyr. Au total, 300 membres du Hezbollah ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre. Toujours dans le nord au Liban, le chef du Hezbollah a rencontré un adjoint du chef du Hamas, objectif discuter de la poursuite des combats et des derniers développements à Gaza, ainsi que des négociations pour un cessez-le-feu qui sont pour l'instant au point mort. Pour Hassan Nasrallah, il n'y aura pas de solution dans le nord sans un arrêt de la guerre à Gaza. On écoute le chef du Hezbollah.
Le véritable objectif numéro un du front du Liban est de continuer à faire pression sur l'ennemi pour qu'il arrête la guerre à Gaza. C'est pourquoi le lien est toujours là entre les deux fronts. Personne ne pourra les dissocier. Les pressions internes au Liban n'ont pas donné de résultats. Les intimidations n'ont pas donné de résultats. Les publicités des sionistes et de certains Libanais n'ont pas porté de fruits et ne porteront pas de fruits.
Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, traduit par I24 News. Du côté de la bande de Gaza, l'armée a détruit 80 cibles terroristes ces dernières 24 heures dans le territoire. Des dizaines de membres du Hamas ont été tués à Jabalia, dans le nord, où l'organisation tente de se réimplanter. Idem à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où des infrastructures du Hamas ont également été détruites. Selon le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, depuis le début de l'opération à Rafah, les forces israéliennes ont éliminé une centaine de terroristes en une dizaine de jours d'opération. L'Union européenne appelle l'État hébreu à mettre un terme à son opération militaire dans le sud de la bande de Gaza. Selon Josep Borrell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, cette opération perturbe encore davantage la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, conduit à davantage de déplacements internes et à des souffrances humaines. Même si l'Union européenne reconnaît le droit d'Israël à se défendre, Israël doit le faire conformément au droit humanitaire international. Le chef de la diplomatie européenne a ajouté dans un communiqué que la poursuite de l'opération pouvait avoir des conséquences sur les relations de l'Union avec Israël. Nouvelle déclaration choc du chef d'État turc. Recep Tayyip Erdogan affirme qu'Israël cherchera à occuper certaines parties de la Turquie s'il bat le Hamas. La Turquie a rompu ses relations commerciales avec Israël, maintenu des liens étroits avec l'organisation terroriste et fustigé à plusieurs reprises l'État hébreu et ses dirigeants, qu'elle a qualifié de nazis depuis le début de la guerre. Recep Tayyip Erdogan a ajouté devant les députés de son parti, l'AKP, ce matin, je le cite, « Ne pensez pas qu'Israël s'arrêtera à Gaza ». à moins qu'il ne soit arrêté, cet État voyou et terroriste jettera son dévolu sur l'Anatolie tôt ou tard. Fin de citation. Enfin, en France, le président de la République a déclaré l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, où des émeutes ont fait 3 morts et 100 de blessés depuis lundi. Un gendarme a lui été grièvement blessé par balle en fin de matinée dans le secteur de Plume. Son pronostic vital est engagé. En métropole, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit par 351 voix contre 153 le texte controversé qui élargit le corps électoral à Nouméa. Dans un courrier adressé aux représentants calédoniens, Emmanuel Macron a précisé que le Congrès se réunirait avant la fin du mois de juin pour adopter définitivement le texte. Une crise également évoquée par le Premier ministre à l'Assemblée nationale en début d'après-midi.
Je le dis et je le redis, la priorité, c'est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. C'est la raison pour laquelle je proposerai tout à l'heure en Conseil des ministres, qui se déroule à 16h30 aujourd'hui, un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais et d'autres renforts de forces de sécurité intérieure arriveront en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent.
Le Premier ministre Gabriel Attal, cet après-midi.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël ? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse où se renvoyer après inscription.
Sarah Cohen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité en direct, entrepreneur franco-américain. Son combat dans les prisons turques avait ému nombreux d'entre nous, ses amis et son avocate notamment, maître Carole Olivia Montenot, s'était alors exprimée à ce micro pour défendre ses droits. Fabien Azoulay, notre invité aujourd'hui, pour raconter alors son calvaire qui a duré 4 ans dans son livre intitulé « Istanbul, dernier arrêt » sorti aux éditions Plomb. On en parlera dans cette émission en échange, suivi de mon coup de cœur à 16h05, Noam Cartozo. L'occasion, bien sûr, comme toujours, de découvrir nos invités, toujours en direct sur Radio J.
15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Bonjour Fabien Azoulay.
Bonjour Cyrielle.
Merci beaucoup d'être mon invité et en direct aujourd'hui. On est le 1er avril. Voilà, on n'a pas pris de vacances, on n'est pas au Touquet, mais nous on est là. J'ai envie de dire merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité qui n'est pas sans lien avec qui vous êtes. Et comme c'est l'ADN de cette émission, j'aimerais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ?
Libre, heureux, accompli.
Accompli. Eh bien, on va voir, on va progresser tout au long de cette émission ensemble. Et donc, le début, toujours le début. Fabien Azoulay, vous êtes né un 18 juillet 1977 à Paris 15e. Vous avez grandi avec votre frère Xavier dans une famille modeste, dites-vous. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ?
Alors, j'ai eu une belle enfance, je pense. Ma mère nous a toujours entourés d'amour et elle était présente. Comme elle était mère au foyer, elle était très présente. J'étais un peu difficile comme garçon. J'étais très agité. J'étais nerveux. J'étais tout le temps agité. Donc, c'était un peu dur pour ma maman de me tenir en laisse, entre guillemets. Mais j'ai eu une belle enfance remplie d'amour et vraiment il y a rien à dire. Même mon père faisait de son mieux, donc il y a rien à dire là-dessus.
Vous dites à un moment donné dans votre livre que le côté modeste dans votre famille génère finalement chez vous une sorte d'envie de réussite, de réussir, parce que vous n'avez pas les mêmes moyens que les gosses du 16e ou encore du 17e.
C'est vrai, donc j'ai été à Dauphine, j'ai fait mes études à Dauphine, et c'est vrai que j'étais mis en face de gens qui avaient beaucoup plus de moyens que moi, et ça m'a donné en fait cette rage de réussir, Et j'avais été à New York quelques fois en vacances ou en repérage de lieux, on va dire.
Quand d'autres allaient sur la côte, vous, c'était New York.
Monaco ou Saint-Tropez, moi, c'était New York. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, juste après mon diplôme, j'ai décidé de m'exiler aux États-Unis. Et c'est là où je me suis bâti un petit empire, mon rêve américain. Enfin, on peut l'appeler de diverses façons.
C'est ça, vous allez passer un bac et puis vous faites des études à Dauphine où vous obtenez un master de sciences de gestion, diplôme en poche. Ce qu'on vous propose comme job à Paris ne vous convient absolument pas. Je crois qu'il y a un petit passage où vous faites un entretien pour travailler dans la banque, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons dans votre livre. Et vous décidez de partir pour New York avec 2000 euros en poche. Donc finalement, c'est quelque part un rêve de gosse qui se réalise. Et qu'est-ce qui se passe ?
Donc j'arrive à New York, on m'avait eu un stage en finance, je fais ce stage pendant 8 mois, et je réalise en fait que, alors je gagne très très bien ma vie, je gagne 5 fois ce qu'on m'avait proposé à Paris, pour un jeune étudiant c'est inespéré, mais en fait je réalise que j'aime pas du tout ce que je fais, je travaille énormément et c'est pas ma passion. Et puis la société devait me sponsoriser pour avoir les papiers, mais il se trouve que le 11 septembre arrive, se passe. Donc mon sponsor, il va pas se matérialiser. Et donc suite à ça, j'ai recherché un autre travail et j'ai été engagé en tant que général manager dans un spa français. Un spa pour hommes dont le propriétaire connaissait évidemment Dauphine, parce que Dauphine c'est pas très connu aux États-Unis mais en France c'est assez réputé, et donc il m'engage très rapidement, et
Philippe
Dumont, et il me donne les clés de son magasin. En fait il me dit moi ma vie est à Paris, donc c'est toi qui gère le show. Et donc je vais apprendre sur le tas un petit peu à avoir une équipe de 25 personnes sous moi, et j'étais le plus jeune à l'époque, je crois que j'avais 24 ans. Et ça a été une expérience très enrichissante.
C'est ça, il vous propose ce projet, il a 10 ans de plus que vous, ce Philippe, et puis après ce laps de temps, vous faites quelques mois en tant que général manager de spa pour hommes au départ, et vous décidez à 25 ans de vous mettre à votre propre compte, de prendre votre envol.
C'est exact. Donc à 25 ans, en 2003, j'ouvre mon premier spa qui s'appelait Broadway Spa sur la 25e et Broadway, donc dans le Flatiron. Ensuite, en 2007, le 7 juillet 2007 pour être précis, j'ouvre le deuxième qui s'appelle Iguazu des Spas. Et puis en 2011, j'ouvre le troisième dans le East Village qui s'appelait le Village Beauty Lounge.
Il faut dire que votre clientèle est merveilleuse, dans le sens où vous avez les plus grandes stars qui viennent. Donc vous réussissez concrètement, Fabien Azoulay, il y a Eva Mendes, Cher, Jessica Alba ou encore Madonna qui fréquentent vos lieux successivement. En l'espace de 13 ans, vous avez monté 3 spas qui ont donc beaucoup beaucoup de succès, jusqu'au jour où à 39 ans, en 2016, vous décidez de tout vendre, tout plaquer pour faire un tour du monde.
Alors oui, on peut dire ça, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit en fait, qu'est-ce que vous pensez entre ce rose orangé et ce rouge nacré ou quelque chose comme ça. Et je l'ai regardé en fait sans rien dire parce que c'était une cliente quand même, mais dans ma tête je me suis dit, il y a tellement de choses plus importantes à s'occuper dans le monde que la couleur de ses ongles. Et en fait, cette superficialité qui existe à New York et qui m'avait fait vibrer, cette féerie de l'argent, des marques, du paraître, ça me faisait plus vibrer. Et donc, j'ai décidé de tout vendre avant d'entamer un tour du monde pendant lequel je me viderai la tête et je penserai à un nouveau projet à mon retour à New York qui me ferait vibrer.
Ah bah là, pour le coup, vous allez le faire, le tour du monde, et vous allez en voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. Vous commencez ce périple en septembre 2016. Istanbul devait être votre dernier arrêt, comme l'indique le titre de votre livre. Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Plomb. Et au départ, vous joignez, entre guillemets, l'utile à l'agréable en vous disant que vous partez pour une greffe capillaire, puisque c'est une pratique très courante en Turquie. Mais cela ne va pas du tout se passer comme prévu. Nous sommes le 25 septembre 2017. Vous venez d'arriver d'Israël pour la Turquie. Que se passe-t-il ?
J'avais donc commandé ce produit du GBL depuis Israël avec ma carte de crédit à mon nom, mais livré à mon hôtel, l'hôtel où j'allais rester, où j'étais resté plusieurs fois à cet hôtel d'ailleurs. Et donc la réceptionniste me dit mon paquet est arrivé. Je dis de toute façon je suis en chemin vers l'hôtel. J'arrive à mon hôtel. Je vois la réceptionniste, j'ouvre le paquet devant elle, je dis « ok, c'est bien ça ». Je me retourne, m'apprête à monter dans ma chambre, et là, police, vous êtes en état d'arrestation. Et donc là, à ce moment-là, c'est comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je passe d'un an de tour du monde où j'ai des images en tête qui sont magnifiques, des levées de soleil, des couchers de soleil, des régions que j'avais visitées, à une arrestation qui me... que je ne comprends pas.
Alors, la vente du GBL n'est plus autorisée depuis juillet 2016, mais vous ne le savez pas, on est un peu plus d'un an plus tard. Sur le site sur lequel vous avez commandé, visiblement, on n'est pas au courant. C'est un site israélien ?
Non, c'est un site lituanien.
Un site lituanien. Vous commandez 2 litres de GBL en solvant. Ce qu'il faut aussi indiquer à nos auditeurs, parce que j'ai suivi bien sûr cette histoire, quand on se dit 2 litres, c'est énorme. Mais c'est le seul choix, la seule option que vous avez pour commander.
Alors, c'est pas le seul choix. Il y a 2 litres minimum, mais il y a 5 litres, 10
c'est
litres,
ça.
50 litres.
C'est le seul choix minimum oui. qu'on vous propose. C'est ce qui fait que, du coup, vous êtes obligé d'en commander autant. Et c'est ce qui fait que vous allez dire à la police, c'est pour ma consommation personnelle, mais eux ne l'entendent pas de cette manière, parce que c'est quand même beaucoup.
Oui, et
a priori.
Mais aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand ils m'ont arrêté, la première question qu'ils m'ont posée, c'est « Êtes-vous gay ?» Et donc, ils savaient pertinemment, d'une, que je n'étais pas un dealer, mais que cette substance était très consommée dans le milieu, dans la communauté homosexuelle.
C'est ça, c'est une substance qui est, bon, c'est une drogue, il faut le dire concrètement parlant. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le GBL et entre guillemets à quoi ça sert ? On est obligé de l'expliquer et aussi ses dérives, parce que le GBL peut devenir du GHB.
Oui, tout à fait. Donc c'est en fait un détergent pour jantes de voiture qui est détourné en un stimulant sexuel. C'est un stupéfiant qui reste dans le sang pendant 2 heures et ensuite qui disparaît. Donc moi, mes amis qui étaient étudiants en médecine me recommandaient cette drogue parce qu'ils disaient, bah, c'est indétectable dans le sang, ça part au bout de 2 heures. Après, tu peux manger, tu peux dormir, il n'y a aucun effet secondaire. Maintenant, quand il est utilisé avec de l'alcool, il peut mettre les personnes dans le coma. Et c'est là où le danger réside.
Ce qu'on appelle donc la drogue du violeur.
C'est pour ça que dans le milieu, on l'appelle oui la drogue du violeur. Mais il faut bien savoir que c'est pas quand on le prend par lui-même que c'est une drogue du violeur. C'est quand il est mélangé à de l'alcool, quand les gens sont dans un bar et qu'ils en mettent dans un verre d'alcool. Oui, là, ça devient la drogue du violeur.
Vous avez parlé de vos amis en médecine. Ce qu'il est aussi important de préciser, c'est que le GBL est pratiqué dans les hôpitaux. Parce qu'au-delà de désinhiber quand c'est avec de l'alcool, ce solvant permet justement de permettre, entre guillemets, d'anesthésier quelque part l'esprit des patients.
C'est ça, c'est bien ça. Vous avez tout dit.
C'est important de le préciser. L'une des fonctions, donc, c'est d'inhiber l'activité cérébrale, ce qui fait que l'on appelle ces drogues du violeur, mais cela, ce n'est pas le cas quand on vient vous chercher. On est au stade où c'est du GBL, donc la question ne se pose même pas de savoir ce que vous allez en faire, finalement, parce que vous vous posez même la question de se dire, est-ce que je ne vais pas revendiquer le fait que c'est pour les gens d'une voiture ? Vous le dites en rigolant, quand on vous pose la question, vous êtes tenté de répondre ça.
Oui, mais je me suis pas caché de...
Puisque quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes gay, vous répondez automatiquement oui. De fait, vous êtes franco-américain, aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc en Turquie, vous n'avez pas le temps de réfléchir. De là, Fabien Azoulay, vous êtes interpellé par la police turque. On vous emmène en interrogatoire. On vous demande intempestivement pour qui vous travaillez. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, on se moque de moi ?
Non, je me dis, vu les preuves que je leur apporte, au bout d'un moment, ils vont comprendre que je suis vraiment pas un dealer. Je leur montre le reçu de ma carte bleue sur mon téléphone du site d'où je l'ai commandé. Je leur montre la liste des pays vers lesquels la vente est interdite qui paraît sur le site web. Je leur montre de mon application l'argent que j'ai sur mes comptes bancaires, que je viens de vendre mes business, que j'ai je vais pas dire une tonne d'argent, mais j'ai énormément d'argent sur mes comptes bancaires. Ils le voient, c'est mon nom, c'est mon adresse. Je me dis, toutes les preuves sont là. Et quand ils me ramènent au commissariat, c'est le commissariat qui se trouve à l'intérieur de l'aéroport. Donc vraiment, dans ma tête, je me suis dit, ils sont prêts à me déporter. Et c'est juste le protocole pour essayer de voir si peut-être je suis dealer, mais quand ils vont s'apercevoir que je ne suis pas, ils vont juste me déporter, histoire finie.
Vous demandez à parler à quelqu'un, au bout d'un long moment, on vous l'autorise, vous appelez votre père dans la nuit.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qui en découle?
Alors, ils m'ont autorisé 60 secondes, une minute de téléphone avec mon père. Je l'appelle sur son fixe parce que je sais qu'à mon frère ne répondrait probablement pas sur le portable à cette heure de la nuit. Donc, j'appelle mon père à 4 heures du matin. Il habitait encore en Israël. Il répond et là, je l'entends paniquer. Enfin, sa voix est comme figée quand je lui dis « Papa, je me fais arrêter en Turquie ».
Votre frère sera prévenu. Il va vous trouver une avocate, conseillée, je crois, par le consulat, qui va s'avérer être une avocate catastrophique, véreuse.
Alors, peut le dire. Oui, la première d'une série de longues expériences avec les avocats turcs qui n'ont été que véreux, qui n'ont servi à rien, sauf à nous mener en fait
en bateau. On peut dire qu'il y a beaucoup d'extorsion d'argent,
oui.
Parce que pour lever le moindre doigt de pied, c'est entre 5 000, 15 000 euros, et puis c'est à chaque fois mirobolant. On vous promet que vous allez sortir rapidement parce que bon, comme c'est pour la consommation personnelle, ça va aller. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Suite à cette première journée, vous passez en comparution immédiate. Sauf que vous ne comprenez forcément pas le turc, qu'il ne parle pas bien l'anglais, et vous sentez qu'on ne vous traduit pas tout.
Ah,
vous pressentez, je dirais même.
C'est le cas en fait. Déjà, le traducteur me demande de répéter plusieurs fois ce que je veux dire au juge. Donc déjà, j'ai un doute. Et aucun mot du juge ne m'est traduit. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que le juge dit. Je ne sais pas la véracité des propos de mon avocat envers le juge, parce que ça n'est pas traduit non plus. Et donc, à l'issue de cette audience, le juge, qui ne connaissait même pas le GBL, ça c'est mon avocate qui me l'a dit, ni le juge, ni le procureur ne savaient ce que c'était. Le juge va quand même demander de 20 à 30 ans de réclusion pour ça. Et ça, je ne l'apprendrai que 6 mois après. Mon avocate n'a pas osé me le dire. Mon frère l'a su, mais elle a été virée immédiatement. On a trouvé une autre avocate qui était censée être un ténor du barreau, qui est venue me voir en prison, qui m'a dit que ça faisait 25 ans qu'elle venait voir des détenus et que dans mon cas, je n'allais pas rester des mois ni des semaines, mais que dans quelques jours, je serai dehors.
Vous êtes condamné à 20 ans de réclusion par la justice turque pour détention de stupéfiants, réduit finalement à 16 ans et 8 mois de prison pour bonne conduite lors du verdict. Est-ce que vous sentez que c'est un traitement particulier?
Alors écoutez, ils avaient en possession mes deux passeports. Ils savaient que je venais d'Israël. Donc j'avais encore un passeport où à l'époque Israël tamponnait
le passeport.
L'arrivée. Alors que maintenant c'est un papier rose qui donne, mais à l'époque
papier volant.
Voilà, à l'époque c'était ça. Et donc j'en avais une flopée dans mon passeport. Donc c'était difficile de pas savoir que j'étais juif. Gay, je leur avais confié. Donc et la France n'était pas vraiment aimée par la Turquie, par le président turc. Donc j'étais français, américain, juif et gay.
Ça faisait beaucoup.
Oui, c'était le tiercé gagnant pour eux.
Fabien Zoulé, ce qui est important de dire, c'est que vous êtes condamné à 16 ans et 8 mois, mais comparativement, parce qu'on va expliquer les gens que vous avez rencontrés, c'est énorme comparativement à des personnes que vous avez en face de vous en prison, qui ont fait des choses extrêmement graves.
Alors on était donc une soixantaine de détenus dans la cellule dans laquelle je suis arrivé et c'était tout crime confondu en fait.
Là c'est les 6 jours d'observation.
Non.
Ou c'est après.
Non,
parce
c'est
qu'il
après.
Y a 6 jours d'observation. 8. Où vous êtes d'abord en 8 jours.
8
où
jours.
Vous êtes en quarantaine. Oui. Vous faites des rencontres bien sûr les plus dingues les unes que les autres. Vous vous retrouvez avec des dealers qui vous disent que la drogue ça ne passe pas du tout en Turquie. Et finalement, on arrive à là, pour être chronologique, hein, la commission qui vous a vu vous défaire dans la cellule C13 du bâtiment réservé aux étrangers du complexe pénitentiaire de Maltepe, qui compte clairement 5 prisons en tout. Vous dites que ce n'est pas une prison, mais une ville, un Hollywood, et vous êtes bien placé pour en parler, une cinécita des voleurs et des assassins. Et donc, qui vous avez en face de vous?
Alors, j'ai des terroristes, talibans, Daesh, des violeurs d'enfants, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'humains. Donc, j'ai une belle panoplie de criminels.
Et certains ne prennent que 5 ans.
Et certains ne prennent que 5 ans.
Pour alors, quel motif?
Alors, voilà, j'ai rencontré ce Pakistanais qui avait été aussi médiatisé. Et en fait, il était là pour avoir violé un enfant de 5 ans, l'avoir coupé en morceaux avant de jeter son corps dans la poubelle. Et il avait pris 5 ans de prison.
Quand vous tentez de comprendre le fonctionnement, qui est qui, hein, en quelque sorte, hein, pour savoir comment se débattre, se défendre dans un milieu qui n'est absolument pas le vôtre, vous n'avez qu'une angoisse, Fabien Azoulay, c'est que l'on apprenne que vous êtes juif et homosexuel.
Alors, ce qui s'est passé, c'est exact, sauf que malheureusement pour moi, il y avait beaucoup de maghrébins dans la prison et que mon nom n'est pas passe-partout au Maghreb. Principalement au Maroc, ils ont le conseiller du roi qui s'appelle Azoulay. Ils savent qu'il est juif. Donc la nouvelle va aller très vite dans la cellule. Si bien que tout le monde sait que je suis juif. Mon homosexualité, je ne m'en ai jamais parlé, je ne l'ai jamais révélé à qui que ce soit parce que je me disais la combinaison des deux, ça serait peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour eux.
Et vous en faites les frais?
Alors, au début, ça se passe relativement bien, on va dire entre guillemets, hein, parce que j'arrive à cantiner pour tout le monde.
Qu'est-ce que vous appelez par cantiner?
Alors, c'est une bonne question, c'est un réflexe de prisonnier que j'ai pris en disant cantiner comme ça, mais toutes les semaines, nous avons le droit de passer une commande dans une grande épicerie de prison. Seulement ceux qui ont les fonds pour faire cette cantine. Grâce à mon frère qui m'envoie de l'argent toutes les semaines sur mon compte de prison, j'arrive à cantiner la limite maximum de ce que je peux acheter et j'ai en général 2 caddies de supermarché remplis, donc j'ai assez pour en faire plusieurs mois pour moi seul. Mais comme je distribue à tire-larigot aux autres détenus, ça m'achète en fait ma tranquillité et puis un peu de calme, quoi.
Jusqu'au jour où un certain prisonnier va rentrer dans votre cellule, et au bout de 2 jours, ça se dégrade.
Alors, il faut savoir que cet Ouzbékistan venait d'intégrer la cellule 2 jours avant. Nos regards ne s'étaient pas croisés, je ne connaissais même pas son nom. La seule chose que je savais de lui, c'est qu'il avait tué son père et sa mère et qu'il écopait d'une peine de 125 ans. Donc, c'était pas vraiment l'individu avec lequel je voulais échanger quoi que ce soit. Et un jour, juste après l'appel du matin, qui avait lieu à 7h. Il est venu dans la chambre où je dormais. Enfin, je dormais plus, hein. J'étais allongé sur mon lit, mais je dormais plus. Et en fait, il me fait un signe de me retourner. Donc, j'avais vu avec une bouilloire à la main. Et moi, je pensais tout naïvement qu'il voulait m'offrir du thé. Ou alors offrir du thé aux détenus qui étaient derrière moi. Sauf qu'il y avait personne derrière moi. Donc, quand je me suis retourné, j'ai vu personne, je me suis retourné en face de lui. Et c'est là qu'il m'a jeté au visage la bouilloire d'eau bouillante, en criant à la Wakbar.
Vous dites avoir été persécuté, harcelé plus que les autres, vous pensez?
Oui, parce que il y avait un peu de jalousie du fait que moi j'arrivais à cantiner toutes les semaines et les autres non. Alors même si j'étais généreux et tout, il y avait quand même une jalousie qui était bel et bien là. Mais c'est la seule fois où j'étais agressé, mais ensuite j'ai été racketté par un jeune Syrien et c'était juste après mon agression. Donc je me sentais vraiment pris dans un étau et que je savais pas comment ça allait se terminer.
Vous allez dormir par la suite avec un couteau sous l'oreiller, Fabien Azoulay. Qui vous dit, toi si je te tue, j'irai au paradis?
C'est justement ce Syrien de 21 ans qui était en prison depuis l'âge de 14 ans. Donc de la prison juvénile, il a été transféré à la prison pour adultes. Il était ami avec les gardiens, avec la plupart des gardiens. Et il était, pour 21 ans, j'arrivais pas à croire qu'un gamin de 21 ans puisse avoir une telle... puisse être aussi malveillant et méchant avec quelqu'un qui avait le double de son âge. Donc il m'a dit ça, pour commencer. Ensuite, ça a été du chantage pour que je lui écrive une partie de la cantine. Donc au début, j'acceptais, je me suis dit, je vais pas me mettre plus de problèmes. Si je lui passe 20 ou 30 euros par semaine, c'est pas un problème. Puis il m'a demandé 50, puis il m'a demandé 75. C'est-à-dire que 75 euros, on peut pas dépenser plus de 75 euros par semaine. Ce qui voulait dire que si je lui donnais toute ma cantine, j'avais plus rien pour moi. Et donc je lui ai dit mais non. Et puis il m'a dit mais si, parce que si jamais tu fais pas ça, tu vois les deux lames que j'ai entre les phalanges, je vais te faire des X sur les joues pendant que tu dormiras. Et ta petite brûlure que tu as eue là il y a quelques semaines, ça aura rien. Ça sera rien à côté de ça. Donc j'étais pris de panique et je me suis dit mais comment, enfin, jusqu'à où ça va aller? Et donc je lui ai écrit la totalité de la cantine, mais j'en ai jamais parlé à mon frère parce que je pense qu'il aurait... C'était quelques semaines après l'agression dont il avait été informé. Et je pense que je sais pas, j'étais prêt à débrancher la prise, comme on dit en anglais, ou à prendre des pilules pour mettre fin à tout ça, parce que je voyais plus la fin.
On continue cette émission avec vous, Fabien Azoulay, pour votre livre intitulé Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Plou. Plomb, dans un instant, c'est le rappel des titres juste avant la suite de cette émission sur Radio J.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio J, il est 15h30 et c'est l'heure du rappel des titres. Hezbollah a lancé une soixantaine de missiles contre le nord d'Israël ce matin, en particulier vers des bases de Tzal à Meron et à Bir Anit. Aucun blessé ni dégât matériel n'a été signalé. Cette attaque fait suite à l'élimination par les forces israéliennes d'un haut responsable du groupe chiite dans la nuit à Tir dans le sud du Liban. Un premier soldat de Tzal est mort dans les combats à Rafah, ville la plus au sud de la bande de Gaza. 22 combattants israéliens ont également été blessés lors des combats sur place hier. L'Union européenne exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire à Rafah. La poursuite de l'opération mettrait inévitablement à rude épreuve la relation de l'Union avec Israël, selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le président américain Joe Biden apposera son veto à un projet de loi sur l'aide à la sécurité d'Israël au Congrès s'il est adopté, annonce la Maison-Blanche. Selon Washington, le projet de loi vise à limiter le pouvoir discrétionnaire du président pour s'assurer que la livraison d'armes s'aligne bien sur les objectifs de la politique étrangère américaine. L'Irlande va reconnaître un État palestinien avant la fin du mois, déclaration ce matin du ministre des Affaires étrangères irlandais, sans préciser la date. Il y a deux mois, les dirigeants de l'Espagne, de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte avaient déclaré dans un communiqué commun être prêts à reconnaître la Palestine comme un véritable État. Enfin, en France, Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, archipel secoué par des émeutes depuis lundi, alors qu'un projet de loi élargissant le droit de vote sur le territoire a été adopté par l'Assemblée nationale. Toutes les violences sont intolérables et feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain, a assuré le chef de l'État.
Radio J. Radio J.
Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyril Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous en direct jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Fabien Azoulay, pour son livre intitulé Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Stock. Je révise le tir et j'embrasse les autres éditions. Forcément, j'avais envie d'évoquer beaucoup de choses avec vous, Fabien Azoulay, dans ce livre très dense où vous racontez vos conditions de détention, évidemment. Est-ce qu'il y a, outre ce livre-là, des choses que vous n'avez pas dites et que vous voudriez dire aujourd'hui?
Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été édités, en fait. Et oui, j'aimerais parler. J'ai donc un ange gardien qui m'a beaucoup aidé pendant cette incarcération. Il y a plusieurs stratagèmes qui ont été mis en place pour essayer de me faire sortir de prison. Et si je peux les partager avec les auditeurs, donc ça m'aiderait, oui.
Les stratagèmes, c'est votre frère qui se bat pour vous, Xavier. Il élabore trois plans à la prison break, si je puis me permettre.
Oui, c'est tout à fait ça.
Pour vous exfiltrer de Turquie.
C'est tout à fait ça. Donc le premier était de me faire transférer de Maltepe à une prison proche de la frontière grecque. Cette prison avait une aile ouverte, c'est-à-dire que tous les trois mois, j'aurais une permission d'une semaine, permission de sortie d'une semaine. Et pendant cette permission, il me ferait m'évader avec un Zodiac pour rejoindre la Grèce. Parallèlement à ça, j'avais un ami, Jeff, qui avait déjà entamé un processus de changement d'identité. Donc j'allais être en fait un prisonnier en cavale pour le reste de ma vie. Et quand mon frère m'annonçait ça au parloir, je me disais, mais comment je pourrais? Je m'appellerais plus Fabien Azoulay, j'aurais plus le même numéro de sécurité sociale. Enfin, c'était un film, vraiment un film. Et ça, du coup, ça n'a pas marché, puisque j'ai été transféré proche de la mer Noire, à l'opposé complet de la Grèce. Tant mieux, j'ai envie de dire quelque part, parce que je ne sais pas si j'aurais pu commencer une deuxième vie comme ça. Le deuxième projet ou deuxième stratagème qui avait été élaboré était de me faire transférer de prison. Et cet ange gardien avait trouvé un groupe de Tchétchènes qui tuerait tous les gardiens de prisonniers dans le fourgon pénitentiaire. Et ensuite, il me capturerait et contre rançon, il me rendrait à mon frère et à ma famille. Ça n'a pas marché non plus. Tant mieux, j'ai envie de dire à nouveau, parce que je ne voyais pas marcher par-dessus des corps gisant sur le sol. Je sais que ma vie est précieuse, mais la vie de tout à chacun est précieuse aussi, même si c'est des gardiens de prison. Tuer 5, 6 ou 8 gardiens de prison, j'aurais pas pu me regarder dans un miroir pour le reste de mes jours. Et le troisième stratagème était de soudoyer un juge de la Cour suprême que Nessim connaissait. Et donc, il était question d'amener un demi-million d'euros à la Cour suprême, à ce juge. Qui était d'accord. Était réglé, tout était lisse. Et il devait juste le faire au compte-gouttes pour ne pas susciter de doute, en fait, par rapport à ce qu'il faisait. Donc, j'appelais mon frère 10 minutes par semaine. C'était le jeudi ou le vendredi. Et donc, mon frère m'a dit, tu es le prochain sur la liste. Il a fait sortir quelqu'un il y a quelques semaines. Mais tu es le prochain sur la liste. C'est une question de quelques jours, une semaine. J'y très bien. Même si je me disais, mais quand même, un demi-million d'euros, c'est le prix d'un appartement, d'un petit appartement. Mais j'ai pas fait quelque chose de tellement répréhensible que je dois payer ma liberté à ce prix-là. Et il me disait, Fabien, ta liberté n'a pas de prix, c'est notre seule solution. Donc j'ai pas eu le choix d'accéder, de toute façon il allait le faire avec ou sans mon accord. Et donc je le rappelle le jeudi suivant, et il me dit pas encore, mais ça va venir. Le jeudi suivant, je l'appelle, et là j'entends que sa voix est différente d'habitude. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et donc il avait la voix un peu tremblante, il me dit, en fait, j'ai été hier à Ankara et le juge qui devait te faire libérer a été limogé. Donc ça, c'est tombé à l'eau aussi.
Il s'avère que j'ai envie de dire tant mieux pour ces trois stratagèmes ou scénarios, on dira ce qu'on veut. Mais pendant tout ce temps, ce qu'il faut expliquer, Fabien, c'est que ça vous a permis de tenir. Votre avocate, Carole Olivia Montenot, l'a dit à plusieurs reprises, et vous nous l'avez confié il y a quelques minutes, la vie est de plus en plus difficile, vous pensez même vouloir en finir à un moment donné parce que les conditions sont terribles. entre-temps. Ce qui vous permet de rester debout, c'est des lettres, des livres qu'on vous envoie, on les évoquera dans un instant très certainement, des pétitions, des comités de soutien qui s'organisent avec notamment l'appui de votre ami et confrère journaliste que j'embrasse, David Benahim, ami d'enfant, je crois que c'est votre meilleur ami. Et puis, votre sort met du temps avant de se faire connaître. Au départ, publiquement, ce n'est pas recommandé. C'est ce qu'on dit à votre avocate qui souhaite médiatiser cette affaire. Et on commence à entendre, au bout d'un an, je crois, votre famille, en tout cas par le biais de votre avocate que nous venons d'évoquer. Et j'ai le souvenir de l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner, interpellé sur le plateau de Cyril Hanouna au lendemain de l'intervention de votre avocate, qui va s'exprimer sur le plateau de BFM TV ou encore sur donc TPMP. Est-ce que vous direz que la médiatisation vous a aidé, d'une part à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur ?
Alors, à l'extérieur, pour moi, c'est très difficile de le dire, puisque j'étais enfermé, mais à l'intérieur, vraiment, vraiment énormément. Cet élan d'humanité que j'ai ressenti de toutes parts du monde, des inconnus qui commençaient à m'écrire, à m'envoyer des livres, à m'envoyer des mots de soutien, d'encouragement, c'était magnifique et dangereux en même temps, parce que ça suscitait la jalousie des autres détenus.
C'est ça.
Je recevais 25 lettres par semaine. C'était incroyable, parce que eux, quand ils recevaient une lettre par mois, qui venait la plupart du temps d'autres prisons, c'était des lettres entre prisonniers. Et moi, je recevais des lettres de France, des États-Unis, d'Angleterre, d'Israël, du Brésil, d'Australie. Enfin, c'était, mais qui est ce garçon ? Qui il est ? Comment ose-t-il ?
Alors, qui vous aide à sortir concrètement ? Et comment ça se passe ?
Alors, c'est une bonne question. C'est un mélange d'avocats très compétents, dont Maître Zimray fait également partie, grande partie. C'est un ex-ambassadeur de France au Danemark, qui est aussi avocat des droits de l'homme, ambassadeur des droits de l'homme, qui a une finesse dans la manière dont il s'exprime, qui aide diplomatiquement en fait. Et Carole Olivia Monteneau, elle qui est très comment dire, elle est très
pugnace,
exactement. Donc la combinaison, le mariage des deux fait que ça va m'aider à sortir. Il y a aussi le fait que Macron ait parlé de mon cas à Erdogan en marge du G7. La médiatisation a énormément fait.
Nicolas Sarkozy vous a soutenu.
Oui, je l'ai rencontré d'ailleurs à ma sortie de prison.
De quelle manière ?
Il a pris parti, il a signé la pétition. Il y a une pétition qui a été signée par plus de 120 000 personnes, dont beaucoup de politiciens. Clément Beaune également m'a soutenu, m'a envoyé un message sur mon téléphone à ma sortie de prison. Donc c'était beau et ça me rassurait. Enfin, je me disais, je suis plus tout seul.
Fabien Azoulay, il y a aussi, vous l'appelez votre ange gardien. J'ai envie de dire que oui, ça porte vraiment bien son nom. Cette personne, vous l'appelez Nessim. Mm-hmm. Qu'importe si c'est le vrai nom ou pas, on le gardera secret. Mais c'est lui qui va vous sauver, parce que c'est lui qui trouve un cas similaire au vôtre qui fait jurisprudence.
Tout à fait. Donc, il trouve ce cas de jurisprudence dans la jurisprudence turque, qu'il donne à mon avocate, Carolia Monteneau, pour qu'elle le traduise en français.
Qui a rendez-vous avec Ali Onaner quasiment au lendemain ou quelques jours après le passage en TPMP?
Tout à fait. Donc, tout s'est vraiment bien enchaîné. Et donc, elle présente ce document à l'ambassadeur, qui lui la supplie d'arrêter la médiatisation pour qu'il puisse s'occuper de me faire transférer. Tout ça est bien sûr conditionnel au fait que ce papier n'apparaîtra jamais dans la presse. Puisque comment expliquez-vous qu'un citoyen turc soit en prison à la maison en attendant son verdict, et puis qu'il sera en fait libéré en première instance, et un citoyen français, américain, juif et gay écope de 16 ans et 8 mois? Comment, en démocratie, on peut expliquer une justice à deux vitesses?
Alors qu'il est exactement dans le même cas que vous.
même quantité, même site web, et il est arrêté en fait après moi, 2 mois après moi. Donc ce cas de jurisprudence aurait dû être trouvé par l'un des 5 cabinets d'avocats que j'ai engagés successivement au cours des 4 années.
Est-ce que vous avez eu la réponse?
Ah.
Pourquoi? Pourquoi ça a été différent pour vous?
Non.
Vous l'avez jamais dit?
Non. Mais comme on l'avait évoqué en début d'émission, je pense que ma religion et mon orientation sexuelle n'ont vraiment pas aidé.
Et peut-être le tampon israélien. Vous êtes extradé en France, vous sortez libre un peu plus tard, le 2 novembre 2021, au bout de 4 ans. Quel souvenir, quel sentiment?
Alors, je me souviens très bien du jour de ma sortie de prison. J'ai mon frère Xavier et un ami Dimitri qui sont venus me chercher. Donc, le 2 novembre 2021, il faisait un soleil pas possible. Et en fait, j'ai passé la porte de la prison et puis je me suis dit qu'on allait dire couper. Vraiment comme dans un film. J'ai bien sûr enlacé mon frère très fort, mon ami. On a été prendre un verre au café vers Beaugrenelle, et en fait mon avocate nous a rejoint et c'était un grand moment parce qu'il y avait Xavier, donc Carole Olivia, et j'étais au coin de Beaugrenelle du pont je me souviens plus,
Birakem. Je vois très bien où.
Et en fait je voyais d'un côté la Tour Eiffel et de l'autre, la Statue de la Liberté.
Vous étiez à l'éclectique.
À l'éclectique, exactement. Ouais. Je n'osais pas dire le nom, mais c'était exactement...
C'est pas grave, ça s'appelle plus comme ça, donc il n'y a pas de problème.
D'accord, c'était là où j'étais. Et en fait, je me dis, c'est une belle manière de refermer l'histoire, parce que la Statue de la Liberté, ça évoque New York, évidemment, et la Tour Eiffel, Paris. Donc ça, c'était un moment fort de ma libération, avant qu'on passe de libération à dépression.
Aujourd'hui, Fabien Azoulay, vous avez 47 ans.
46.
46. À l'aube, on va dire, dans un petit moment, de vos 50 ans. Vous avez quel genre de vie aujourd'hui?
Alors, aux antipodes de la vie que j'avais à New York, ça c'est sûr. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, avec toute la richesse matérielle que j'avais à New York, j'étais pas aussi heureux que je le suis aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Là, je pars bientôt en Israël pour faire du bénévolat. J'ai trouvé un peu un sens à ma vie en aidant les autres. Et ça, c'est pas en échange de moyens financiers. C'est vraiment aider parce que j'aime aider. Et j'ai fait cet apprentissage un peu en prison. Donc, aussi dur que l'expérience a été, elle m'a aussi permis de mûrir, de devenir un homme. De m'affirmer, de pas avoir peur de dire non, mais aussi m'a aidé à développer ma capacité à pardonner, que je n'avais pas avant. J'étais très rancunier et un peu enfant gâté, alors que je ne l'étais pas à la base, mais New York m'a rendu comme ça, le succès m'a rendu comme ça.
Vous étiez parti faire ce tour du monde pour trouver un but, une activité qui vous ferait vibrer intérieurement. Quelque part, est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce qu'on peut considérer ça? Et quel bilan, quelle philosophie, au final, vous tirez de tout cela?
Alors, plusieurs philosophies. La première, c'est que on ne se résume pas, en tant qu'individu, aux erreurs qu'on commet. On est plus que ça. Deuxièmement, comme j'en parlais juste avant, la capacité à pardonner. Retenir des sentiments négatifs envers une personne, ça n'apporte rien. Ça apporte de l'agressivité, des ondes négatives. Donc même si une personne vous fait du mal, en tout cas c'est ma philosophie aujourd'hui, on pardonne.
Fabien Azoulay, dans cette partie d'émission, on va découvrir non pas toute la culture que vous aimez comme il est d'ordinaire dans cette émission de faire, mais on va découvrir la chronique flashback avec Annabelle Guiraud autour du thème qui nous rassemble aujourd'hui.
15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Cyrielle. Bonjour Fabien.
Bonjour Annabelle.
Dans cette chronique, on va aborder le thème de la prison sous le prisme de la culture, au travers de la musique, la littérature, le cinéma. Allez, c'est parti. Commençons en musique avec Serge Gainsbourg et la chanson du Forçat. Extrait.
Oh, faut-il vraiment se laisser entrer? prisonnier. Oh, oh, pour connaître le prix de la liberté.
Nous sommes en 1966 quand Serge Gainsbourg répond à une commande pour composer la bande originale du feuilleton Vidocq, diffusé sur la seule chaîne du moment, l'ORTF. Pour les plus jeunes d'entre nous, Vidocq, c'est un personnage qui a réellement existé. Un homme aux multiples vies, aventurier, délinquant, forçat. Il s'échappera du bagne, deviendra chef de la brigade de sûreté de la préfecture de police pour finir à la tête d'une agence de détectives privés. Et c'est donc grâce à Vidocq que le nom de Gainsbourg est inscrit au générique de cette célèbre série en 1967. Intéressons-nous à présent à la chanson du forçat. Est-ce vraiment une création originale de l'homme aux oreilles de fou? Car c'est vrai, on est plutôt habitué à des orchestrations jazz ou classiques. Un petit coup d'appli Shazam sur la partie guitare folk blues de la chanson du forçat et bim, on tombe sur la ballade Off All Is Brown de Bob Dylan, sortie en 1965. Eh bien oui, Gainsbourg avait bien emprunté les notes d'un autre et il ne s'en cachait pas. Il pensait même que personne ne s'en apercevrait, répondra-t-il au micro de Francis Blanche. Mais je vous rassure, les paroles de la chanson du forçat sont bien de Gainsbourg. Des paroles ciselées qui résument en quelques mots la privation de liberté et la saveur de la liberté quand elle est recouvrée. C'est vrai cela, Fabien ? Quand on sort de prison et qu'on n'a plus rien au-dessus de la tête, quand on voit le ciel, c'est un souvenir qui marque, non ?
Tout à fait. Il n'y a pas de mots pour décrire.
On va continuer avec de la musique et la chanson qui se prononce peut-être Nouda.
Oui, Nouda, une chanson de Coma Sorkswine. Coma Sorkswine, c'est un groupe fondé par Nudem Durak. Nudem Durak, chanteuse kurde de 26 ans, originaire de Turquie et emprisonnée depuis 2015 dans des geôles turques pour avoir enfreint l'interdit de chanter en kurde. Voilà une région du monde où l'on espère un jour un renouveau au sommet du pouvoir. Il semblerait d'ailleurs que c'est en train de se dessiner avec les résultats des dernières municipales qui ont eu lieu hier. Alors, tiens, en parlant de renouveau, cela se dit Nouda en kurde. Et c'est le titre du prochain extrait que l'on va écouter, interprété par le groupe donc de Nudem Durak. Nudem Durak est emprisonné en Turquie. Elle est condamnée à 10 ans de prison pour promotion de la propagande kurde. En d'autres termes, son crime est d'avoir chanté la culture du peuple kurde dans une Turquie où le gouvernement souhaite la voir exterminée. Et la justice ne s'arrête pas là. En juillet 2016, sans accusation supplémentaire, sa peine est portée à 19 ans pour appartenance à une organisation terroriste. C'est en quelque sorte un châtiment long, très long, pour lui enlever le goût de chanter en kurde pour le peuple kurde.
Et c'est une affaire d'ailleurs qui va faire grand bruit dans les médias et très soutenue.
Oui, très vite, cette campagne de soutien va prendre forme avec des chanteurs qui se mettent en place en Allemagne, par exemple, avec Song for Nudem. Et en 2019, c'est en France, l'écrivain Joseph Andras écrit un premier article dans l'Humanité et puis un second dans la revue en ligne Lundi Matin qui sera traduit en plusieurs langues. Et on arrive en 2020 comme ça à une campagne Free Nudem Durak qui est lancée. Les soutiens de figures politiques, intellectuelles et artistiques arrivent des quatre coins du monde démocratique. Et la perle revient en 2021 à Roger Waters, cofondateur du groupe rock Pink Floyd, qui lui enverra une guitare en prison pour remplacer celle cassée par les gardiens. Car oui, Nudem Durak continue de créer derrière les barreaux. Les barreaux peuvent annihiler beaucoup de choses, mais la créativité subsiste, surtout quand c'est un repart à l'injustice indicible. Vous approuvez ça, Fabien ?
Tout à fait. Et je ressens ce qu'elle peut ressentir en prison. Être condamné pour ça, c'est absolument horrible. C'est absolument horrible et qu'elle continue d'exprimer son art et son combat, bah c'est admirable.
On va poursuivre en lecture avec Michel Foucault, Annabelle.
Oui, Michel Foucault, avec Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris en 75, chez Gallimard. Michel Foucault, philosophe français et militant politique, eh bien dans les années 70, il fonde le groupe d'information sur les prisons qui donne la parole aux détenus sur leurs conditions de vie. 5 ans plus tard, il dispose de suffisamment de matière pour écrire Surveiller et punir, Naissance de la prison. Un essai où il s'interroge. D'où vient cette étrange pratique ou le curieux projet d'enfermer pour redresser, que portent avec eux les codes pénaux de l'époque moderne. Sans doute une technologie apparue au 19e siècle, une technologie dite moderne, selon lui, de tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles. L'essai étudie l'apparition historique de la prison sous sa forme moderne, en commençant par constater la disparition de l'application en public de la peine de mort au profit d'exécutions cachées par les secrets des murs. Dès le 19e siècle, c'est la fin des châtiments spectacles en Europe. Désormais, les hors-la-loi sont simplement privés de leur liberté via des pratiques punitives plus pudiques. Prison, réclusion, travaux forcés, déportation. Pour Michel Foucault, c'est l'organisation d'une discipline minutieuse qui a permis au pouvoir des sociétés modernes de s'ancrer. En résumé, dis-moi comment ton pays punit les criminels et je te dirai si tu vis dans une société moderne ou pas.
Et on termine cette chronique avec bien sûr un film qui avait fait beaucoup parler à l'époque de sa sortie et que vous évoquez en quatrième de couverture, Fabien Azoulay, et c'est bien sûr Midnight Express.
Oui, Midnight Express, un film dramatique américano-britannique d'Alan Parker, sorti en 1978 et inspiré du livre autobiographique de William Hayes. Sans plus attendre, écoutons un extrait de la BO en français daté de 78.
Chers parents, voici la lettre la plus pénible que j'ai jamais eue à écrire. J'espérais pouvoir me tirer de cette vilaine affaire assez vite pour que vous n'en sachiez rien.
L'histoire authentique d'un jeune homme égaré en pays étranger.
Midnight Express, c'est l'histoire de Billy Hayes, touriste en Turquie, qui est arrêté à la frontière avec 2 kg d'hashish. C'est le début du cauchemar pour Billy, condamné 4 ans de prison en Turquie pour détention de drogue. Rejugé par la suite pour que ça serve d'exemple, sa peine de prison atteindra 30 ans de prison pour trafic de stupéfiants. S'évader ou mourir ? Il n'a pas d'autre choix. Mais il choisira l'évasion, référence au titre du film Midnight Express, une expression qui signifie « s'évader » dans le langage des prisonniers. Midnight Express, un film aux 2 Oscars et 6 Golden Globes, à voir ou revoir sur Netflix.
Et je crois qu'il y a une petite anecdote peut-être à évoquer autour de ce film.
Alors oui, Billy Hayes, le prisonnier, l'ex-prisonnier, m'a écrit pendant que j'étais en prison. Donc c'était, alors je ne savais pas qui il était. Tous les détenus me disaient « mais ton histoire, toi, c'est Midnight Express ». Et comme je n'avais jamais vu le film, bah, je ne savais pas à quoi il faisait référence. Sauf qu'à ma sortie, bah, je me suis décidé à le voir et j'ai compris, en fait, il y a pas mal de similitudes entre ce qui lui est arrivé et ce qui m'est arrivé. Sauf que, bon, il savait les risques encourus en prenant du hashish, en essayant de smuggler du hashish à la frontière, alors que moi j'avais commandé un produit en mon nom, donc il n'y avait pas exactement l'envie de tromper les personnes. Mais il m'a écrit, il m'a dit d'essayer de faire du yoga en prison, et bon, j'ai gardé la lettre, et puis c'est sympa d'avoir une lettre de Billy Hayes.
Ah bah oui, forcément, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a aussi des livres que vous avez lus, Fabien Azoulay, en prison, qu'on vous a envoyés. Est-ce que certains vous ont aidé? Lesquels vous avez lus?
Oui, alors il y en a une bonne partie qui m'ont marqué et qui m'ont aidé. Il y en a un en particulier de Viktor Frankl qui s'appelle Man Searching for Meaning. Donc en français, je l'ai lu en anglais, donc je me souviens, c'est la signification.
Donner du sens à sa vie, la logothérapie.
Exactement, c'est la logothérapie en fait qui explique. Donc il commence son livre par expliquer son parcours quand il a été déporté. Et c'était un psychiatre au départ, donc quelqu'un d'éduqué et d'instruit. Et il expliquait que c'est pas forcément les gens les plus éduqués ou les plus forts qui ont tenu. Mais c'est le fait d'avoir un but dans la vie qui fait tenir les gens. Et il est de là, il est venu, il a établi cette logothérapie. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était ben, voilà, lui, il a réussi à tenir dans des conditions qui étaient bien pires que les miennes. Et quelque part, s'il a pu tenir et s'il y a encore des survivants aujourd'hui, ben, j'ai pas le droit d'abandonner, moi.
Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour cette chronique. On se dit à demain sur l'antenne de Radio J. Fabien Azoulay, on continue cette émission avec vous. Vous êtes venu nous voir pour votre livre Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques, sorti aux éditions Stock. Tout de suite, c'est le journal.
Écoutez Radio J. Radio J.
Radio J.
Radio J.
Bonjour.
Le Le 6-9, Hélène Ferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Radio-Z.